France.fr.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Claire Carrard.
Bonjour Claire Carrard.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de la rédaction de l'hebdomadaire Courrier International, un magazine d'un genre nouveau, enfin genre nouveau mais quand même qui va fêter ses 30 ans à l'automne. C'est un concept très simple et très fort, pour qui ne le connaîtrait pas, racontez.
Courrier International, c'est un magazine dédié à l'actualité internationale. Nous ne produisons pas d'informations propres, nous sélectionnons et traduisons les meilleurs articles repérés dans la presse étrangère par notre rédaction, que ce soit des articles russes, arabes, chinois, anglais ou américains, et cela depuis 30 ans.
Voilà.
C'est le monde raconté par la presse étrangère et la France, l'actualité française aussi par la presse étrangère.
Voilà, c'est presque indispensable. Pendant la guerre du Golfe, par exemple, en 91, Courrier International traduisait ce qui se disait dans les journaux arabes. Et j'ai découvert que vous avez été le premier magazine français à mettre en couverture un inconnu américain, Bill Clinton, en 91. Vous avez pris la tête de la rédaction en juillet dernier. Vous avez succédé à Eric Scholl, qui était resté 7 ans et qui est parti diriger l'Express. C'est ça aussi la vie des médias. Quelques mois après votre arrivée, le baptême du feu, une pandémie mondiale, la crise du coronavirus. Comment avez-vous vécu cette crise sur le plan rédactionnel ?
Alors, c'est assez particulier parce qu'il y a eu deux choses. D'abord, c'est une crise mondiale, donc qui correspond, c'est vraiment le cœur de notre sujet. Notre rédaction a été regarder ce qui se passait dans le monde entier, dans la presse du monde entier, et c'est quelque chose qui nous a servi parce que je crois que nos lecteurs ont compris ce que nous faisions et à quoi nous servions, à savoir que nous avons tenté d'éclairer chaque problème que nous vivions en France à travers ce qui s'était passé ailleurs, en Corée du Sud, au Japon, à Taïwan, à Hong Kong, mais aussi en Italie. Et c'est là qu'on a commencé à le début mars, le 13 mars, on a commencé à dire à la rédaction de rentrer chez elle. Mmh. Et nous avons mis en place un télétravail. On a fait comme les autres. Quand on a vu ce qui se passait en Italie, on s'est dit que la situation était suffisamment grave et que c'est la même chose qui allait se passer en France. On a fait notre première une le 17 mars, le 19 mars, sur la pandémie qui vient. Et ensuite, depuis, nous avons décliné, depuis deux mois, des thématiques sur chaque semaine sur des aspects, sur l'impact de la pandémie. Mmh. On a fait l'urgence sociale, les menaces sur la démocratie, et tout ça à distance avec une rédaction qui a parfaitement fonctionner à partir de journaux qu'elle lisait sur les sites étrangers, principalement, puisqu'on est en télétravail.
Alors, je l'ai dit, c'est une pandémie mondiale, et vous, avec les antennes que vous avez, les périscopes que vous avez partout dans le monde, est-ce que cette crise a été perçue de la même manière dans le monde entier ?
Pas toujours, non, puisqu'on a vu qu'en Asie, notamment en Corée du Sud, le gouvernement avait été assez précurseur à anticiper. Certains pays comme Taïwan ou la Corée du Sud ont pu anticiper davantage la crise. D'autres pays aujourd'hui, comme le Brésil, subissent de plein fouet les conséquences de l'aveuglement de leur président. En France, le temps de réaction a été un peu long, on dira. L'Europe s'est avancée en ordre dispersé. C'est ce qu'on a essayé de montrer tout au long de ces deux mois de crise, la façon dont chaque pays appréhendait, réagissait, confiné ou déconfiné d'ailleurs, et surtout il y a eu une sorte de cacophonie, notamment au niveau de l'Europe, qui a été compliquée à gérer.
Vous précédez un peu ma question suivante. Le thème du dernier numéro que je montre à la caméra sur Europe1.fr, dernier numéro qui est sorti hier jeudi, traditionnellement Courrier International sort le jeudi, santé, climat, même combat. Vous avez fait, vous l'avez dit, des thématiques pendant cette crise: coronavirus, nos vies bouleversées, un risque de pénurie vraiment, repenser le monde, nos démocraties peuvent-elles tenir, bonne question, la vie d'après. Alors, à l'intérieur des journaux, chaque semaine, les papiers manifestent une certaine cohérence entre eux. Est-ce que l'info est à ce point mondialisée ? Est-ce que des journaux distants de milliers de kilomètres font désormais les mêmes sujets avec les mêmes angles ? Ou est-ce que c'est vous, votre rédaction, qui les anglez et qui les regroupez ?
Alors, c'est exactement le cœur de notre responsabilité éditoriale. On ne travestit pas les choses. Ce que vous disiez tout à fait très bien tout à l'heure, on a une rédaction qui a les yeux ouverts à 360 sur le monde, qui lit chaque jour la presse dans tous les pays, et ensuite, au cours de discussions entre nous, on s'aperçoit que tel journal a publié un article qui se recoupe avec un article en Chine. On a vu la même chose au Brésil. C'est comme ça qu'on construit, qu'on décrypte et qu'on anticipe des phénomènes, et qu'après on rassemble ces papiers, sachant qu'ils n'ont pas été écrits pour être justement rassemblés. Notre responsabilité, c'est de ne pas travestir la réalité. Dans le cas de la pandémie, c'est un peu plus facile parce qu'il y a objectivement quelque chose de mondial, et tous les journaux se sont mis à écrire, tous les journaux du monde se sont mis à écrire sur le sujet. Ouais. C'était beaucoup plus facile là de rassembler des choses, et c'est pour ça que chaque semaine on a construit des thématiques en fonction de ce qui remontait, ouais, de la presse.
Alors cette semaine, santé, climat, même combat. La question posée est la suivante: est-ce qu'avec cette crise du coronavirus, l'économie va enfin passer au vert, c'est-à-dire devenir écolo? Alors c'est assez intéressant ce que vous citez dans votre éditorial, le magazine The Economist du 21 mai. The Economist écrit: la crise du Covid-19 et la crise climatique ne font pas que se ressembler, elles interagissent. De quelle manière?
Eh bien, il y a plusieurs choses. Il y a un exemple qui est cité dans un des papiers, qui dit que, par exemple, on a largement imputé l'épidémie actuelle, enfin une des causes possibles de l'épidémie actuelle, c'est la déforestation qui a entraîné un problème avec les animaux sauvages. Ouais. C'est l'origine de l'épidémie à Wuhan. On fait d'ailleurs 4 pages dans le journal cette semaine sur les animaux sauvages.
Alors, on va en parler de ces 4 pages juste après une pause, qu'elles sont passionnantes. Mais continuez, Claire.
Donc la déforestation a pu être un facteur aggravant et provoquant de l'épidémie. La déforestation est aussi un facteur aggravant du réchauffement de la planète. Donc quand on veut lutter contre l'un, autant lutter contre l'autre à la fois. L'urgence sanitaire et l'urgence climatique se rejoignent. Et il y a des signaux intéressants envoyés en ce sens. Hier, Ursula von der Leyen a annoncé le plan de relance de la Commission européenne, qui inclut une partie verte. On peut espérer qu'au moment où on déploie des milliards dans l'économie mondiale, pour relancer l'économie mondiale, on aura une attention pour le climat, pour lutter contre le réchauffement climatique, qui sont les mêmes côtés. Enfin, ouais. Il y a le même enjeu qu'avec contre la santé. Quoi.
Puissiez-vous être entendu, parce que je l'ai appris dans le courrier international, au même moment qu'il y avait la crise, la Chine vient de décider de lancer de nouvelles centrales à charbon. On marque une pause, on se retrouve tout de suite.
Le grand classique de la presse, Courrier international, fête ses 30 ans cet automne. On continue à parler de son actualité dans un court instant sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et ce matin dans Culture Média, c'est Claire Carrard qui est notre invitée, la directrice de la rédaction de Courrier International, Philippe.
Et alors je reviens aux fondamentaux de Courrier International, c'est traduire des articles auxquels on ne s'intéresse pas traditionnellement en France, voire même en Occident. Par exemple, je l'ai dit, une double page passionnante traduite du journal chinois Nanfang Zhuomo, c'est un journal de Canton. Il est consacré aux animaux sauvages et ça démarre très très fort. C'est un chinois qui écrit. Pour les amateurs de gibier, il est compliqué de savoir quel animal il est aujourd'hui possible de consommer avec la publication de nouvelles mesures et règlements. On pouvait manger du rat et de la chauve-souris, on ne peut plus. On peut toujours manger du crocodile et de la salamandre géante alors qu'ils sont issus d'élevage. Quant aux serpents et aux crapauds épineux géants, leur consommation était suspendue et il est difficile de dire s'il sera possible d'en manger à l'avenir. C'est pas le sketch d'un humoriste, c'est un article très sérieux, Claire Carrard.
Oui, c'est un article très sérieux et très important. C'est un ensemble de 4 pages que nous avons consacré à la question des animaux sauvages en Chine. Pourquoi? Parce qu'on a voulu comprendre en profondeur pourquoi les Chinois étaient si friands de rats, crapauds, ce que vous disiez, de tortues et autres serpents. Tout ça parce qu'on soupçonne un animal sauvage d'être à l'origine de la pandémie de Covid-19. Et plutôt que de repartir sur une enquête sur l'origine de la pandémie, on est allé voir ce qui se passe en Chine de façon culturelle, en quoi la consommation d'animaux sauvages est si importante dans la culture chinoise, quel est l'impact économique. Et cet article raconte, cette formidable enquête raconte en quoi c'est important. La filière quand même représente 14 millions de personnes en Chine. Elle raconte l'importance pour les Chinois de la consommation, du commerce des animaux sauvages. L'Assemblée nationale populaire chinoise a justement en février adopté une loi pour essayer de légiférer, de contrôler, d'interdire le commerce et la consommation illégale. Du coup, les éleveurs sont un peu dans le désarroi, plongés dans le désarroi. C'est un enjeu économique majeur pour eux. Et ils cherchent à comprendre, parce que les listes qui ont été publiées sont ce que vous racontiez tout à l'heure et ce que vous lisiez tout à l'heure. C'est un peu une liste à la Prévert. Il y a des animaux qui sont interdits, d'autres, on ne sait plus très bien s'ils sont interdits. Et voilà, l'enquête raconte tout ça, c'est passionnant, ça raconte le désarroi des éleveurs de serpents. Qui ont des stocks, des milliers de serpents dont ils ne savent plus quoi faire. Mmh. Ils ne peuvent pas les vendre, ni les commercialiser, ni les abattre.
Et on se pose, voilà. Ils se posent de ces questions. L'auteur de l'article écrit « Les éleveurs de crapauds inondent de coups de téléphone les services du ministère de l'Agriculture. Absolument. L'un d'eux donne ce conseil suivant, si on veut discuter avec l'administration chinoise. Il dit « Faut avancer de solides arguments. Par exemple, pourquoi ne pourrait-on pas élever des crapauds épineux géants alors que l'on trouve localement, alors qu'on a le droit d'élever des crapauds bulles ? C'est une bonne question. Je souris, mais c'est très très sérieux. Vous l'avez dit, 14 millions de personnes en Chine vivent de cette filière. Et alors, il y a même les gourmets qui se posent des questions. La municipalité de Shenzhen, dans le sud du pays, Absolument. A publié une liste d'animaux terrestres consommables qui comprend le bœuf, le porc, mais exclut les animaux de compagnie comme les chats et les chiens, vous l'avez dit. La démarche a fait réagir les internautes qui se demandent si des mets de choix, un truc très bon, comme le crapaud buffle cuit sur les grills ou la tortue braisée à la sauce soja, ne risque pas de disparaître des cartes de restaurants. Et c'est là où on voit vraiment la force de Courrier International. Sans vous, moi, j'aurais jamais découvert cette info.
Oui, là, cet article, il est vraiment absolument passionnant à lire. En plus, il est complété par un autre article qui explique justement ce que vous disiez sur les animaux de compagnie, qui explique cette tradition, l'importance culturelle. La plupart des Chinois consomment ces animaux sauvages parce qu'ils pensent que c'est des fortifiants. C'est aussi un signe extérieur de richesse pour eux. Mmh. Et ce qui est bien par rapport à cet article, c'est le deuxième article qui le complète et qui appelle justement un changement des mentalités, parce que sinon, l'image de la Chine ne progressera pas, et puis les protecteurs de l'environnement en Chine sont... Vous parliez de la révolte des éleveurs tout à l'heure, les protecteurs de l'environnement et les défenseurs des animaux se mobilisent aussi, donc c'est un débat effectivement dont on n'a pas trop entendu parler jusque-là en France.
On va quitter la Chine, on va prendre de la hauteur, on va revenir à des questions médias. Comment se portent les ventes de Courrier International ? Je veux dire, je connais la réponse, qu'il y a même une pleine page de pub d'autopromo, page 37. Merci pour votre confiance, écrivez-vous. Vous donnez deux chiffres avec un tableau depuis le 19 mars, depuis le début du confinement, les ventes en kiosque ont grimpé, les abonnements numériques ont grimpé.
Absolument, les ventes en kiosque ont augmenté de 50% et on a récupéré 20 000 abonnés numériques. Je pense que ça récompense le travail d'une équipe, d'une rédaction qui s'est beaucoup, beaucoup mobilisée depuis 2 mois. Et aussi, je pense qu'il ne faut pas non plus pavoiser. C'est aussi parce que le cœur du journal, notre spécificité, c'est l'actualité internationale. Et je crois vraiment que maintenant, tout le monde a compris que c'était bien une crise mondiale et qu'il est important de regarder ailleurs pour comprendre ce qui se passe chez nous. C'est le regard décentré, c'est vraiment ce qu'on fait en permanence, le regard décalé. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre les problématiques françaises simplement en se regardant le nombril. Je crois que Courrier regarde ailleurs et éclaire les situations d'un œil, comme ce qu'on fait là sur les animaux sauvages. Ouais. Ça permet de comprendre beaucoup de choses différemment.
On est bien d'accord avec vous. Comment vous voyez la sortie de crise ? Je vais dire le sens de ma question, parce qu'il y a une crise qui se rajoute à la crise. Les problèmes de Presstalis qui diffuse les 3/4 de la presse en France.
C'est plus compliqué. C'est la mauvaise nouvelle dans l'euphorie des ventes. Là, dernièrement, les derniers numéros, on était fortement pénalisés. C'est une situation très grave de la distribution en France. Donc, il y a des journaux qui sont moins distribués, sont moins vendus, sont moins lus. Et on sait très bien que depuis 2 mois, on a eu visiblement beaucoup de nouveaux lecteurs. Si on ne reparaît pas en kiosque ou si on est difficilement accessible dans les points de vente, très vite, les lecteurs pourraient passer à autre chose. Et ça, il faut absolument qu'on essaie de les garder. Pour l'instant, la situation est compliquée. Ça va un petit peu mieux. Il y a eu un très mauvais passage il y a 3 semaines. Là, et il y a eu aussi, en raison du confinement, des difficultés de distribution. On a dû annuler l'apparition d'un hors-série. Donc la sortie de crise va être compliquée. Nous, on est moins dépendants de la publicité, de l'effondrement publicitaire. Donc ça nous concerne moins. Mais globalement, le retour va être, le réveil va être compliqué.
Et Claire Carrard, vous parliez de regard décentré. Je vais finir avec ça. J'ai adoré cet article en page science qui s'intéresse aux conséquences du télétravail. Tout le monde fait du télétravail, y compris à la NASA. En cette période de télétravail, les chats des ingénieurs se baladent parfois sur leur clavier. Est-ce que c'est risqué ? C'est une vraie question. Tout est parti d'un tweet d'une astrophysicienne de la NASA. Elle s'appelle Amber Strone. Elle écrit « Pendant une réunion virtuelle, nous nous demandons comment empêcher les chats de prendre accidentellement les commandes d'un engin quand on travaille chez soi sur un ordinateur portable et pas dans un bâtiment. Zéro chat de la NASA. » Ça sera ma dernière question, Claire Carrard. Est-ce que vous avez un chat ?
J'ai un chat et j'ai absolument adoré ce papier. Je suis contente qu'il vous ait plu parce que j'ai eu exactement les mêmes problèmes en vision conforant où mon chat a un petit peu pris les commandes et a frappé l'ensemble de la rédaction.
Tant que c'est pas lui qui fait les titres de Courrier International, merci beaucoup. Merci Claire Carrard, directrice de la rédaction de l'hebdomadaire Courrier International. Merci pour votre énergie et votre humour.